Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais, avant d'aborder le sujet du mois, si je puis dire, je voudrais rajouter un bref paragraphe qui concerne le pillage de Notre-Dame des Victoires. Je l'ai raconté le mois dernier, puisque nous commémorons, hélas, les 155 ans du pillage de la basilique. Alors le pape Pie IX, qui aimait beaucoup Notre-Dame des Victoires, dès qu'il a appris les sacrilèges et les déprédations que la commune avait commis dans Paris, s'empressa d'envoyer plusieurs objets pouvant servir au culte pour les églises de la capitale qui avaient le plus souffert. Et Notre-Dame des Victoires, bien sûr, ne fut pas oubliée. Le pape offrit un calice en or massif et émaillé de diverses couleurs. Avant de l'envoyer, il s'en servit lui-même. Le présent fut apporté à Notre-Dame des Victoires le 14 octobre 1871 par le nonce apostolique Mgr Chigui. Le 21 novembre suivant, M. le curé et les membres de la fabrique adressèrent à Rome la lettre suivante. Au pape, bien sûr. Très Saint-Père, combien n'avons-nous pas été touchés du présent par lequel votre sainteté veut bien adoucir nos douloureuses amertumes. Vous venez de nous envoyer par son Excellence Mgr Chigui, votre nonce à Paris, un calice en or pur, merveilleusement ouvragé, d'une grande valeur. Mais ce qui lui donne un prix inestimable, c'est qu'il a été, à l'usage de votre sainteté, pour offrir le saint sacrifice de la messe. Nous conserverons ce calice avec bonheur. Nos prêtres s'en serviront au jour de fête en pensant que votre sainteté nous l'a donné dans la 26e année de son pontificat. Nous vous remercions très Saint-Père, en notre nom personnel, au nom de notre Église et de son clergé, au nom de l'archiconfrérie du très saint et immaculé cœur de Marie, et de ses nombreux associés. Voilà. Alors ce mois-ci, je veux vous parler de deux choses. Des liens de l'archiconfrérie avec le Moyen-Orient et d'une basilique à Rome. Alors, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand même, la première édition du manuel de l'archiconfrérie parut le 1er janvier 1839. Et elle connut un essor rapide grâce aux missionnaires dont la majorité était composée de lazaristes et des missions étrangères de Paris. En Afrique du Nord, plusieurs paroisses d'Algérie s'affilièrent à l'archiconfrérie. La première cathédrale d'Alger, dédicacée à Saint-Philippe et qui deviendra une mosquée en 1962, s'affilie le 20 mai 1842. La filiation de la paroisse d'Oran date du 17 novembre 1841 et est suivie de celles de Beaune, Constantine, Blida, Boufarik, Bougie et Mostaganem. En Tunisie, la cathédrale s'affilie en 1869. Au Moyen-Orient, l'archiconfrérie devient très présente grâce aux missionnaires et à l'œuvre des écoles d'Orient qui s'appelle aujourd'hui l'œuvre d'Orient. Celle-ci, fondée le 4 avril 1856 par des laïcs regroupés autour du mathématicien Augustin Cauchy, catholique fervent, de l'helléniste Charles Lenormand, d'Alfred de Falloux, de Charles de Montalembert, avec le soutien du jésuite, le père Ravignan. L'association avait pour mission de soutenir les écoles religieuses francophones implantée dans l'Empire ottoman, notamment au Liban. La naissance de l'œuvre d'Orient intervient juste après la signature du traité de Paris, le 30 mars 1856, qui mettait un terme à la guerre de Crimée. Cette guerre avait été déclenchée subitement à cause d'une querelle entre catholiques et orthodoxes à propos de la garde des lieux saints. La Russie dut faire face à une coalition composée de l'Angleterre, de la France et de l'Empire ottoman. Alors notre mémoire scolaire a gardé, peut-être pour certains d'entre vous, les noms de Sébastopol et Malakoff. Le maréchal de Mac Mahon aurait dit « J'y suis, j'y reste » après la prise de la redoute de Malakoff le 7 septembre 1855 lors du siège de Sébastopol. L'œuvre des écoles d'Orient connaît un fort développement en 1860 à la suite de la mobilisation provoquée par le massacre des chrétiens au Mont-Liban et à Damas. L'œuvre est reconnue d'église en 1858 par le pape Pie IX. Le premier directeur est l'abbé Lavigerie, de 1856 à 1861. Il effectue, durant cette période, de nombreux déplacements pour faire connaître l'œuvre et organiser ses structures locales. En 1860, après le massacre des chrétiens par les Druzes, l'abbé se rend au Liban et en Syrie pour porter le fruit de sa collecte et en superviser la distribution. À Damas, l'abbé Lavigerie rencontre Abdelkader, chef religieux et militaire qui, ça fait partie de l'histoire de France, s'opposa à la conquête de l'Algérie par la France. Après sa reddition en 1847, il fut détenu durant 5 ans au château d'Amboise. Et lors du massacre des chrétiens, il sauva des milliers de religieux et de laïcs catholiques. L'abbé Lavigerie fut ensuite nommé évêque de Nancy, puis archevêque d'Alger de 1867 à sa mort en 1892. Il fonda en 1868 la Société des missionnaires d'Afrique, appelée communément Père Blanc, et en l'année d'après, les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Les Pères Blancs s'installent à l'église Sainte-Anne de Jérusalem. En 1884, l'antique archidiocèse de Carthage est restauré. Lavigerie est nommé cardinal et primat d'Afrique. Il est enterré en la cathédrale Saint-Louis de Carthage. Mais après l'indépendance, en 1964, son corps est transféré dans la crypte de la Maison Généralice à Rome. Comme directeur des écoles d'Orient, succède à l'abbé Lavigerie l'abbé Soubirane de 1861 à 1872. Et il est nommé évêque auxiliaire d'Alger en 1872. En 1880, il est nommé évêque de Belley et travaille à l'achèvement du procès apostolique du vénérable curé d'Ars. Concernant l'œuvre d'Orient, un grand ex-voto est apposé dans la chapelle Saint-Augustin. Il est là-bas. Et il y est écrit en haut: Dieu le veut, l'œuvre des écoles d'Orient à Notre-Dame des Victoires. Vœux de reconnaissance, Monsieur Charles Lenormand, Monseigneur Lavigerie, Monsieur l'abbé Soubirane. Vidimus telam eius in oriente, nous avons vu l'étoile se lever en Orient, et deux dates, 1860-1864. Donc, en 1863, l'abbé Soubirane reçut le titre de sous-directeur particulier avec pouvoir d'affilier à l'archiconfrérie mère toutes les confréries du même titre canoniquement érigées. Ceci eut lieu avant son départ pour le Moyen-Orient. Et à son retour, il vient à Notre-Dame des Victoires le 20 novembre 1864 en déclarant « Je veux maintenant vous montrer que votre archiconfrérie est en Orient un centre d'action bienfaisante, je dirais plus un centre d'action catholique. J'ai parcouru l'Égypte, la Nubie, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, l'Asie mineure, la Turquie d'Europe, la Grèce. partout sur ma route du Caire à Constantinople, de Smyrne à Athènes, de Beyrouth à Damas, je l'ai trouvé étendant ses rameaux comme un arbre immense. Quand je reçus mon diplôme de sous-directeur pour nos établissements catholiques en Orient, je croyais, avec simplicité, que je pourrais largement me servir des pouvoirs qui m'étaient confiés et faire connaître l'archiconfrérie dans les contrées lointaines que je devais explorer. Je dirais même que je partis un peu fier de Notre-Dame des Victoires. Au moins, me disais-je, je ferai quelque chose pour la Sainte Vierge à laquelle j'ai tant demandé de grâce, et pour l'archiconfrérie dont je devenais un des représentants et dont on m'avait promis les prières. J'arrive à Alexandrie. Ma première visite est pour les Sœurs de la Charité. Je leur demande si elles ne verraient pas avec bonheur l'archiconfrérie établie dans leur pensionnat. « Mais nous l'avons, me répondent-elles. La plupart de nos enfants et même des personnes de la ville sont affiliées. » Bon, je vais au Caire. Je crus être plus heureux auprès des sœurs du bon pasteur et des Clarisses. Je fus d'abord chez les premières qui ont une école très nombreuse. Je leur annonce que je célébrerai le lendemain la messe dans leur chapelle et qu'après je me propose de leur parler de l'archiconfrérie et de l'établir dans leur maison. « Monsieur le directeur, me répond en souriant la supérieure, cette pieuse association existe depuis assez longtemps parmi nous. Elle y est florissante. Tous les dimanches, les réunions ont lieu avec exactitude, mais que cela ne vous empêche pas de nous parler de cette sainte œuvre. » Alors les Clarisses, elles, tiennent, outre leurs écoles externes, un orphelinat. Là, du moins, me dit, je ferai quelque chose pour l'archiconfrérie. Point du tout, elle y était aussi connue. Rien à faire donc en Égypte. J'en partis un peu désappointée, mais le cœur rempli de vénération pour une œuvre qui avait étendu si loin son action et son influence. Et quelques jours auparavant, le père Soubiran avait confié « Quelle œuvre que l'archiconfrérie ! Je ne la connaissais pas avant mon voyage, malgré tout ce que j'en avais entendu dire. Je ne m'en faisais pas une idée, juste. Il m'a fallu parcourir l'Orient pendant 10 mois pour comprendre ce qu'elle est en réalité. C'est une œuvre immense, elle a partout des ramifications. » Quelle œuvre providentielle que Monsieur Desgenettes. Alors, il y a beaucoup d'églises qui sont affiliées à l'archiconfrérie. J'en ai relevé pas mal. Alors, on peut citer la cathédrale d'Accra, d'Alep, de Mossoul, de Sour et Naples en Syrie. Les églises à Beyrouth, Bikfaya, Galata de Constantinople, Alexandrie, Jérusalem, Bassora, Salonique, Damas, Charzy au Liban. Existe-t-elle toujours? Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas la réponse. Voilà. Alors, le deuxième sujet concerne une basilique à Rome. Peut-être certains d'entre vous la connaissent et y sont allés. Alors voilà. Je vais vous raconter pourquoi cette basilique est affiliée à Rome. Alors, il s'agit de la basilique Saint-Laurent hors les murs, appelée basilique Saint-Laurent in Lucina, parce qu'au départ, dans le quartier, habitait une dame romaine qui s'appelait Lucina. L'édifice actuel que nous connaissons est le résultat de la fusion de deux églises distinctes, construites l'une à la fin du 5e siècle et l'autre au début du 13e, autour du tombeau de Saint-Laurent, diacre espagnol martyrisé à l'époque de l'empereur Valérien, en 258. Elle conserve aussi les reliques de Saint-Stéphane. Elle abrite les tombeaux de 5 papes, dont le bienheureux pape Pie IX. Le peintre Nicolas Poussin y est inhumé, parce qu'au moment de sa mort, il séjournait à Rome, tout simplement. Dans cette basilique, on vénère deux madones miraculeuses, Notre-Dame de la Santé, couronnée en 1648, et Notre-Dame du Refuge, couronnée en 1678. Et peu après, une fontaine fut découverte de façon inattendue dans l'église, et dont les eaux rendirent la guérison à de nombreux malades. Saint-Laurent devenait en quelque sorte le Lourdes de Rome au XVIIe siècle. Donc l'archiconfrérie y fut établie en 1842, et le père Desgenettes, qui s'est rendu à Rome la même année, nous en a laissé un récit. Rome semblait être privée de la faveur de posséder notre sainte œuvre. En effet, le bref du 24 avril 1838, qui investit les directeurs du pouvoir de s'agréger toutes les confréries établies sur toute la terre, en excepte par une clause formelle la ville de Rome. Cependant, on apprend à Rome les nombreuses grâces obtenues par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Et aussitôt, des listes nombreuses sont envoyées. Dans ces listes, toutes les classes de l'Église et de l'État sont représentées. Nous avons la joie d'y lire les noms d'un grand nombre de cardinaux, d'évêques, de membres du clergé séculier et régulier, de princes romains, de magistrats, etc. Le dessein d'agréger la paroisse Saint-Laurent fut suggéré au curé, M. Ferdinand Papy, qui appartenait au clerc régulier mineur de Saint-François Caracciolo. Celui-ci s'empressa d'établir dans son église une association de prière en l'honneur du cœur immaculé de Marie, ignorant la clause restrictive du bref de 1838. Il nous demande l'agrégation et nous fûmes malheureusement contraints de la lui refuser. Ce refus, loin de le décourager, excita son zèle. Après plusieurs mois d'attente et d'incertitude, un événement détermina le succès de sa pieuse entreprise. Dans la matinée du 15 janvier 1842, jour où l'archiconfrérie célébrait une de ses fêtes, on vint l'avertir qu'un jeune homme de sa paroisse était prêt de mourir. Il se rendit à l'instant auprès du malade, mais celui-ci ne voulut point entendre parler de confession. Le curé s'en retournait à son église quand la pensée lui vint de demander à Marie, dans la conversion de son jeune paroissien, l'approbation du ciel pour l'œuvre qu'il avait le désir d'établir en faveur du pécheur. La prière du curé fut exaucée. Ça s'était produit avec M. Desgenettes quand il avait fondé l'archiconfrérie et il avait demandé un signe, la conversion d'un monsieur profondément athée, dernier ministre du malheureux roi Louis XVI, M. Étienne Joly, et dont notre curé de la basilique Saint-Laurent, il retourne auprès du malade et le trouve tout différent de ce qu'il avait été le matin. Le jeune homme se confessa avec repentir et devint un sujet d'édification pour tous ceux qu'il avait connus. Cette faveur obtenue assura le curé qu'il pourrait établir le culte du Saint et Immaculé Cœur de Marie pour la conversion des pécheurs. Plein de courage, il présente sa requête au pape Grégoire XVI et le pape y répondit immédiatement par un bref en date du 15 février 1842 adressé au cardinal vicaire de Rome. Dans ce bref, le pape, après avoir rappelé l'immense bienfait qu'il nous a accordé le 24 avril 1838, en élevant l'association du Saint-Cœur de Marie à la dignité d'archiconfrérie, apprend au cardinal vicaire que son cher fils, Ferdinand Papy, curé de Saint-Laurent, sollicite de sa puissance l'érection d'une semblable association. Le pape, ordonne au cardinal d'instituer en son nom la susdite archiconfrérie et déclare qu'aussitôt elle aura été érigée, il lui accorde à perpétuité pour tous et chacun de ses membres la participation à toutes les grâces et indulgences plénières ou partielles dont il nous a enrichis lui-même. Le cher père Desgenettes, durant son voyage à Rome, donc, a eu aussi le bonheur d'être reçu par le pape Grégoire VII, et ce fut un voyage très fructueux sur le plan spirituel, et surtout pour son bébé chéri, l'archiconfrérie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis au mois prochain.
Les horaires pour aujourd'hui sont un petit peu différents. Nous allons exposer le Saint-Sacrement jusqu'à 13h15 cet après-midi, parce qu'à 14h il y a un mariage, donc il n'y a pas de rosaire prévu, mais la conférence de Eudes d'Orléans est bien maintenue à 15h45, la troisième conférence du cycle sur pourquoi Dieu aime la France. Donc n'hésitez pas à venir ou à revoir les conférences sur YouTube. Voilà, et les vêpres sont à 17h, première vêpre du dimanche. Voilà, merci beaucoup.
Dans les siècles des siècles, ainsi.